Donc je passe la parole à Simon Horsington qui va nous parler de la vision du Royaume-Uni. Alors je vois qu'il est avocat au barreau de Londres, mais qu'il est ancien président de l'Association des juristes franco-britanniques. Ça fait beaucoup fantasmer. Qu'est-ce qu'un juriste franco-britannique ?
Quelqu'un qui essaie d'être bilingue et juriste. Diochen Vaur, Crecy, un prestagé Bobine. Diochen Vaur, Faison Rouget. Diochen Vaur, Madame Rouget. Diochen Vaur, Michel Berry. Tout d'abord, merci. À Prestagé et au Roger Rouget, je le dis en gallois. Mais c'est un remerciement à vous. Et je parlerai des langues officielles juridiques dans le Royaume-Uni et nos deux langues. Diochen Vaur, Bobine. Alors, dans Les Femmes Savantes de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, quand Philinte parle de la manque de connaissance de grammaire de sa servante, la réponse de la servante était « Madame, je n'ai pas connu ni grand-mère ni grand-père ». Alors, souvent, les malentendus ou même les ignorances, dans le sens du latin « ignorare », de ne pas savoir, se démontrent dans des situations plus sérieuses. Pour le tout juriste, le problème se démontre dans la question posée il y a près de 500 ans par le magistrat bordelais au château de Montaigne, que sais-je. Alors, que sais-je de la dite common law ? Et je vais faire un résumé tout d'abord. Je vais vous parler de ce genre de malentendu international de ce qu'est la common law, ses origines et où on est dans le Royaume-Uni et mondialement. Et deuxième point, je veux parler de l'harmonisation dans l'Union de l'Europe et sur le plan international, et je vais faire une petite conclusion très brève. Alors, que sais-je de la dite common law ? Les origines dans le Royaume-Uni. En Angleterre, tout d'abord, et je vais faire les quatre juridictions et la cinquième juridiction fédérale de notre État, parce que la compréhension depuis le Constitution Act 2005, un changement le plus grand depuis 800 ans, qui est le résultat de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, est vraiment mal compris dans le Royaume-Uni et mal compris ailleurs. Alors, on commence en Angleterre avec bien sûr une loi celte et puis une loi romaine que les gens oublient souvent. Une loi romaine pendant plus de 400 ans, arrivée de Jules César en 54 avant Jésus-Christ, donc avant l'ère commune, et 410 de l'ère commune, on voit l'empereur Honoré qui se retire les légions. Et dans cette période, on a vu pas seulement la loi romaine comme la loi pour, si on veut dire, l'Angleterre et Pays de Galles, mais on avait aussi l'arrivée d'un christianisme, d'une église chrétienne catholique avec Saint-Augustin qui a créé les deux archevêchés de Canterbury et de York, du point de vue de la loi canonique qui dure toujours, avec les tribunaux de l'église anglicane. On a vu quand même une couche qui était dans un sens très continental. Alors, après 410, 439. 439, pour moi, dans la famille, très important, parce qu'il y a deux frères qui sont arrivés en 439. Selon le chronique des Anglo-Saxons, dans le manuscrit Parker à l'université de Cambridge, et selon les écrits du moine Nennius, ou Nen en langue française. Il y a l'arrivée de deux frères, Angiste et Horsa, H-O-R-S-A, d'où mon nom, Horsington, Horsangustun, purement anglo-saxon. On est des migrants du continent pour des raisons économiques qui est un peu comme actuellement dans le Royaume-Uni et l'Union de l'Europe. Ces migrants, sont arrivés pour aider le roi Vortigern de Kent. Ils étaient des fils cadets des fermiers qui voulaient des terres. Ils sont restés et étaient repoussés dans le sud-ouest par les Vikings, les Danois, qui sont arrivés. Alors, voilà, je suis une personne dans un côté anglo-saxon et l'autre côté, comme j'avais dit en gallois au début, on peut voir de côté de ma mère, un peu frontalier et un peu celte. Alors, entre parenthèses en vitesse, Horsa, le nom d'un des deux frères, est bien connu dans un sens de la génération de la guerre parce que la France a été libérée grâce à un planeur qui est arrivé au pont de l'Orne en 1944, qui avait débuté, et le seul qui existe, parce qu'on n'a pas de chez nous, le seul Horsa qui existe, il faut le voir, c'est dans la musée à l'Orne. Alors, revenons à nos boutons. Celtes, Romains, Anglo-Saxons, Vikings. On est très européens dans ce sens. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a le comble de la malheur. Alors, un samedi, le 14 octobre 1066, arrive Guillaume le Bâtard. La défaite des Anglo-Saxons. La fin d'une heptarchie démocratique où il y a l'élection des rois, qui existe dans des vestiges toujours dans la cérémonie du couronnement de la reine. L'acclamation, c'est l'élection de la reine ou du roi, qui existe toujours. Et le jour de Noël 1066, quand Guillaume le Bâtard était couronné, il avait gardé, juste comme les présidents américains, je ne sais pas si vous avez remarqué, que chaque fois qu'il y a une élection d'un président américain, ils sont obligés de dire et de faire le commentaire de point de vue de reconnaître les nations souveraines, les nations des peuples indigènes, qu'on disait dans le temps des Indiens. Parce que, et je vais revenir à ça un peu plus tard, que dans un traité, et j'espère que my learned friends sont d'accord, que fondamentalement, les traités sont entre des pays, des États souverains. C'est un concept de base. C'est pourquoi les présidents disent toujours que les nations des peuples indigènes, pour renforcer le fait que ces traités existent toujours. Parce que c'est important de garder les Indiens sur les réservations, bien qu'ils viennent de gagner des dédommagements assez importants, mais on ne rentre pas dans la loi civile des États-Unis. Alors, Guillaume le Bâtard, on est arrivé à une situation affreuse, parce que la fin des Anglo-Saxons, 20 ans après l'arrivée de Guillaume, si on regarde l'audit qu'il a fait, Doomsday Book, on voit que sur les 132 personnes qui étaient les grands seigneurs anglo-saxons à qui appartenait l'Angleterre et Galles, on voit qu'il n'y a que 10. Alors, ça veut dire que la totalité du pays était pris par les Normands, et ils ont mis un système qui était un système gouvernemental, juridique, militaire, féodal et chrétienne, vraiment en pyramide, et toujours sous le joug des Normands, dans le sens que le duc de Normandie est notre chef d'État, est aussi bien connu comme la reine d'Angleterre, de Corse et d'Irlande. Mais à cause de ça, nous avons vu une situation juridique qui a développé de la Normandie, du continent, un système qui a développé dans la langue française, dialecte anglo-normand. On a vu que jusqu'à 1500 plutôt, la langue des tribunaux dans le royaume d'Angleterre, Pays de Galles, c'était la langue française, dialecte anglo-normand. Il n'y avait pas d'anglo-saxon, bien que dans le 14e siècle de 200 avant, il y avait le père de la littérature, Geoffrey Chaucer, qui a écrit dans les deux langues, la langue française et l'anglais. Alors, on voit une situation typique qui a subi la France, dans un sens, dans la France, pendant l'occupation. L'obligation d'avoir une langue étrangère qui vous gère. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que Henri II, qui était très important pour nous, parce que c'est lui qui nous a donné le vocabulaire juridique. Judge, les juges. Juries, jury. Les assises, les assizes. Judges in circuit, les juges en circuit, circuit judges. Ça existe toujours dès le 12e siècle. Et ça, on parle des judges en banque, s'il y a des juges qui se mettent ensemble. Tous, c'est la langue du continent. Alors, on voit qu'avec Henri II, ce système est figé, est évolué, et est figé dans un sens jusqu'à nos jours. On a toujours ce système d'Henri d'Anjou. Un système qui marche très bien parce que ça donne au peuple, dans le système jury, la décision sur la culpabilité ou non. Et au juge, la connaissance sur les faits, à point de juger. Alors, je vais rapidement maintenant du côté séculaire à l'Église dans cette période. J'avais déjà cité le fait qu'on a deux archevêques, mais pour l'instant, je veux prononcer sur quelque chose que toute personne qui connaît le système, et j'en suis sûr que le docteur Cassuto le connaît très bien, qu'on dit la common law, mais il y a le concept de common law and equity. Alors ici, c'est une fusion qui a lieu d'un système de jurisprudence de l'Église et laïque. Cette fusion a lieu en 1875 avec les Judicature Acts. Avant, il y avait une grande étape dans le XVIe siècle avec la réforme, parce qu'avant, ce système de justice était sous le cardinal qui était Lord Chancellor. Et c'était lui qui adoucit les problèmes du common law. On sait que, par exemple, là-dedans, on avait ce qu'on appelle the maxims, les maximes de justice, pas des décisions de point de vue de la common law traditionnelle, ni des actes des rois, des décrets de rois ou des actes de parlement. Et ces maximes disaient que si vous voulez avoir de la justice, il faut faire la justice. Si vous venez pour faire la justice, il faut avoir les mains propres. Et cette jurisprudence est très importante. On parle toujours du fait que le mot d'origine, c'est un exemple très important du côté civil, c'est the jus, E-S-E, the jus. The jus vient de la loi romaine, ad opus. Et the jus est plus connu mondialement dans les termes de langue française, le trust et les statique et trust. On dit toujours en langue anglaise juridique, Statique Trust. On utilise les termes français pour ça. Et c'était à cause du conseil de Clermont, on a déjà parlé de Clermont-Ferrand dans un autre thème, mais sous Urban II, et on a vu que ce trust, pour que les gens puissent aller en croisade et avoir quelqu'un qui gardait les biens contre le baron à côté et son loi, et sa loi féroce de force, on a eu une augmentation incroyable dans ce système de trust à cause d'une loi religieuse sous des tribunaux religieuses dans un sens vers les biens des gens aussi que leurs âmes. Et comme je dis, ça a continué. Je vais pas... J'ai donné une autre fois une discours sur le trust et la loi du trust et la fiducie en France. Mais je veux vous donner des différentes couches dans la dite common law que les gens ne parlent jamais de ces différentes couches. C'est beaucoup complexe, avec énormément de respect au docteur Cassuto, que le simple anglo-saxon d'un côté. Alors, pour terminer cette histoire de l'Église, il y a toujours deux choses. Il y a la loi canonique, qui dure toujours avec l'Église anglicane, pour les deux archevêques. Alors, il y a des tribunaux de loi canonique dans chaque diocèse, avec appel au Arches Court pour l'archevêque de Canterbury et au Chancery Court pour l'archevêque de York. Et puis après, il y a appel au Court of Ecclesiastical Causes Reserved. Et puis après ça, il y a la Cour suprême du Royaume-Uni. Alors, je veux dire que, pour terminer cette histoire de la loi anglaise, nous avons aussi, et je le fais rapidement, dans le 17e, 18e, 19e siècle, on voit une évolution du pouvoir du Parlement, et aussi dans le 20e, plus fort, et on voit que la Chambre des communes qui est élue, par contre, la Chambre des lords n'est pas élue, on voit qu'il y a énormément de pouvoir à cause des lois de 1911 et 1917, surtout pendant la Première Guerre, quand la Chambre des lords refusait d'accepter une loi de financement de la guerre, et on avait passé des House of Lords Act qui a dit que s'il s'agit d'une loi fiscale, la Chambre des Lords ne peut rien faire. Ça passe toujours avec l'acceptation du Chambre des communes. Alors, on a aussi eu en 49, etc. Je ne vais pas aller dans les détails. Tout ça pour dire que le pouvoir du Parlement est très grand maintenant, surtout la Chambre élue. On peut parler du point de vue pénal. Est-ce qu'il y a des offenses? Je peux dire que entre 1997 et 2007, on avait 3000 nouvelles offenses créées par la législature de M. Blair et de M. Brown. 3000 qui n'existaient pas avant. Alors, je reprends rapidement le fil de deuxième loi dans notre État fédéral, c'est la loi de Pays de Galles. C'est assez rapide parce que c'est pareil à l'Angleterre en beaucoup de sens. Sauf que, bien sûr, on avait le voie celte, les Romains, très important, parce que on connaît le Saint Patrick qui vient du Patricius, qui veut dire que c'est un patricien. Mais ce qui est très intéressant, c'est que l'évolution indépendante après 410 de la loi galloise a eu dans le 9e siècle Hualdar et le roi Hualdar de Pays de Galles, ou en français Hugh le Bon, peut-être c'est mieux le dire, Hugh le Bon a fait une code. La code de Hugh le Bon, c'est très très bien quand fondamental dans l'histoire de Pays de Galles. Alors c'est une code. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est du common law. Et ce qui est intéressant, c'est en parallèle des codes qui étaient romano-germaniques dans le temps, dans la même époque. Et parallèle, pas dérivé. Vous allez voir qu'à la fin, que l'harmonisation est tout à fait possible. Alors, on va aller rapidement du fait que après l'arrivée des Normands qui ont fait l'invasion de Pays de Galles, on voit un système qui était anglo-normand, pareil qu'en Angleterre, et on voit la fin absolument de point de vue juridique entre 1532 et 1540 par Henri VIII, la fin d'un système de droit gallois à part. Maintenant, je saute rapidement à l'année 1998, où il y avait l'acte d'évolution qui donne une assemblée et le pouvoir de faire des lois au Pays de Galles. Et cette année, ils vont avoir une possibilité de faire des lois primaires beaucoup plus importantes. Et le Premier ministre de First Minister, le Premier ministre de l'Assemblée nationale le dernier, a fait un rapport en disant qu'il faut absolument reprendre le fil du droit gallois et avoir une loi à part, un système, une procédure pénale, tout à part de la loi anglaise. Bon, j'arrive maintenant à l'Irlande du Nord. J'avais eu un peu entre parenthèses, si je suis permis de le dire, parce que gallois, on a quand même le prince de Galles qui était créé en 1301, alors par Édouard Ier et Edward Carnarvon. Alors on a eu le système héréditaire primogéniture des Normands imposé, parce qu'avant le système anglo-saxon était par élection. Alors on voit maintenant un projet de loi qui se forme, et un projet de loi qui se forme de manière démocratique, si on peut le dire, dans un sens un peu ironique, que la reine est d'accord qu'on change le système d'avoir comme chef d'État pas le premier-né fils, mais le premier-né soit fille ou garçon. Alors en 1000 ans, ça fait une sacrée étape moderne. Je le dis ça, et je dis la reine le volte. Pourquoi est-ce que je dis la reine le volte? Parce que légalement, depuis 1166, et dans tous les parlements qu'il y a eu depuis, et toutes les lois, tous les décrets, ça vient du système du décret royal, fait par un monarque illettré, on a le système que, quand le projet de loi a passé à la Chambre des communes, à la Chambre des lords et tout le monde, il faut avoir l'accord du chef d'État, pour ainsi dire la reine. Et ça, c'est fait oralement, pas les Lord Commissioners qui ont des lettres particulières, les lettres patentes, pour agir pour la reine. Et on lit à haute voix chaque statut, et puis cette personne dit « la reine le veut » en français anglo-normand, et toutes les lois sont passées dans la langue française toujours. Vous pouvez me demander qu'est-ce qui arrive si elle n'aime pas la loi. Elle dit « la reine s'avisera ». La dernière fois qu'une personne a dit ça dans la Chambre des Lords, la reine s'avisera, c'était sous la reine Anne, qui était au début du XVIIIe siècle. Alors, Irlande du Nord, ça c'est encore plus court. Irlande du Nord, la même chose dans un sens que Angleterre en grande partie, celte, mais pas romain, sauf après, avec l'Église catholique. Mais le commencement vraiment que je veux prendre, c'est qu'il y avait toujours des influences de l'Italie chez nous. Alors la bulle d'Adrien IV, de 1155, l'audabilitaire a dit et donne à Henri II, dans ses termes, « Dominion of the Kingdom of Ireland ». Alors le Vatican donne à Henri II le fait d'être roi d'Irlande en 1155. Alors, voilà le début, dans un sens, de la situation en Irlande. Il a eu tout de suite les rois d'Irlande avec lui, sauf le plus fort, parce que les autres n'aimaient pas le plus fort, parce qu'ils avaient plusieurs rois, le roi de Leinster, et les personnes aussi qui étaient contre Henri II d'Anjou, c'était les Normands. Parce qu'il y avait des Normands qui, petit à petit, avec Guillaume le bâtard quand il était arrivé, sont passés un peu la mer d'Irlande. Ils sont allés en Irlande. Alors, c'est d'où vient cette tradition, pas cette tradition, ce peuple qu'on connaît très bien, qui ont le nom Fitz devant leur nom. On le connaît, par exemple, dans John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis. Alors, on sait que cette souche normande, avant 1155, sont ces Normands. Alors, je saute rapidement. Absolument, en 1921, il y a la division d'Irlande en deux, la République dans le sud, et dans le nord, les six comtés et les provinces. Alors, on voit que le système vraiment anglais, gallois, irlandais était plus ou moins, pendant les derniers siècles, les derniers 3-4 siècles, les mêmes. Maintenant, on a une assemblée en Irlande du Nord qui fait les lois. Et on a une situation qui a beaucoup amélioré. Chose que je vais faire mention vers l'harmonisation du point de vue des lois terroristes. Alors, l'accord Vendredi Saint, du Vendredi Saint 1998, a eu, dans le contexte, les mêmes choses que le traité de Lisbonne, du point de vue de coopération, du point de vue des juges et de la police, etc., 10 ans avant Lisbonne. C'est intéressant qu'on voit vraiment la même chose dans ces deux documents en principe. Cette organisation qui veut travailler ensemble. Loi d'Écosse, encore plus rapide. Loi d'Écosse, les Écossais n'avaient pas les Romains, ni les Normands, pas de joug normand, pas de joug romain. Alors eux, par contre, dans le 14e siècle, le 14e siècle, il faut que je regarde mes notes, je ne suis pas spécialiste. Le 14e siècle, le roi David d'Écosse avait dit, dis donc, c'est pas mal ce système de common law dans le sud. Je vais quand même faire des lois pénales qui sont ce style-là. Alors ils ont pris le common law pour avoir des lois pénales. Mais les gens qui l'ont suivi n'en étaient pas tellement d'accord, c'est un peu trop anglais. Alors dans le 14e siècle, ils ont dit, non, on va changer un peu plus, parce que quand on a des problèmes, on va les regarder encore une fois la loi romaine. Alors, avec l'évolution de l'économie, etc., en Écosse, on voyait que c'était plutôt les instituts d'originaire, pas de Napoléon, mais dans un sens plutôt de, je pense, Justinien, 1000 ans et plus avant, comme les codes, on voit que le système écossais devient très influencé par le droit romain. Et c'est un système civil. Pour à vrai dire, c'est un système mixte civil, dans le sens de la loi du commerce, du civil law, et dans le sens de la loi pénale, c'est méli-mélo. Je veux ici, parce que je pense que je commence à prendre votre temps un peu trop, je vais citer ici quelque chose que je trouve assez intéressant. Il s'agit du fait qu'on a des jurys. On a des jurys dans les quatre pays de notre Royaume-Uni, et les jurys sont un peu différents. En Irlande du Nord, et au Pays de Galles, et en Angleterre, il s'agit de 12 personnes. Et les 12 personnes donnent une décision où, si c'est très dur, on a 10, majorité de 10 sur les 12 qui décident. Et puis on décide, très simplement, si on est coupable ou non coupable. En Écosse, on a un jury de 15 personnes. La décision est faite par une majorité, qui veut dire sur 15, majorité, ça fait simple majorité, ça fait 8. Et puis, au lieu de deux décisions, coupables et non coupables, ils en ont trois décisions du jury. Il y a coupable, non coupable et not proven. Not proven, ça se traduit mal par manque de preuves, insuffisance de preuves, mais on est libéré quand même. Alors, nous avons un problème avec l'Écosse actuellement. On peut parler de ça plus tard, parce que l'Écosse a un appel pour les problèmes de droit civil à Londres, à la Cour suprême, mais le système, c'est qu'il n'y a pas d'appel hors de l'Écosse pour la pénale. Mais récemment, cette année, dans deux cas, CADA et l'autre, c'est Fraser, où il s'agissait de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, où il y avait une personne qui n'avait pas un avocat, qui avait droit à un avocat. Alors, et l'autre, c'était question où la défense n'était pas donnée des documents de la police. La Cour suprême du Royaume-Uni, pour la première fois, a décidé que, avec les actes d'évolution, les droits de l'homme étaient quelque chose pour la Cour suprême du Royaume-Uni. Et ainsi, du point de vue de la loi et la procédure pénale, on pouvait aller à la Cour suprême du Royaume-Uni. Dans ces cas-là, le Premier ministre, qui est écossais nationaliste, a tout de suite dit de Lord Hope, ancien juge, le plus grand juge, le plus haut juge de l'Écosse, il a dit « We no longer have Scottish law, we have Hope's law », en jouant sur le terme d'une série américaine. Alors, la réalité, c'est que l'Écosse, en tant qu'État souverain, va avoir avant 2016, un référendum pour se séparer du Royaume-Uni, d'être une nation indépendante. Ils sont obligés d'avoir ce référendum avant 2016. Bien sûr, comme vous le savez, avec les accords de Vandalisa, il y a la possibilité d'avoir un référendum qui s'est demandé par le peuple d'Irlande du Nord, et il peut se séparer du Royaume-Uni, et s'il veut être indépendant ou faire partie de la République d'Irlande. Une chose qui est remarquable dans la flexibilité de notre nation par rapport, je pense, au continent, parce que je ne vois pas des gens qui sont d'accord pour donner un référendum aux Basques, ni aux Bretons, ni aux Catalans, que je pense qu'ils sont les deux côtés du Dépernay, les Catalans et les Basques, et la Bretagne, un peu comme l'Écosse, qui est au bout. Et je ne parlerai pas du système en Irlande du Nord, de l'Alsace. Alors, fin de cette explication où je vais essayer de dire qu'il y a beaucoup plus dans la common law que ce qui est dit anglo-saxon, qu'il y a des éléments de droit romain, il y a des éléments de toutes sortes de choses dedans qui nous donnent une flexibilité. Cette flexibilité nous mène dans un sens beaucoup plus ouvert à un système d'harmonisation que la plupart des autres pays membres de l'Union de l'Europe. On a dû avoir une énorme flexibilité. Je ne parle pas de la situation de la common law mondialement. Les États-Unis ont un système mixte parce qu'il y a Louisiane et les codes à Louisiane. Au Canada, il y a la code de Québec, aussi bien que la common law. Il y a au Pakistan la loi charia, ou bien que la common law. Il y a des membres États de Commonwealth. Et il faut toujours dire que Commonwealth, c'est le mot anglo-saxon pour république, res publica, Commonwealth. C'est très simple, république en anglais, c'est Commonwealth. Et il y a des États membres qui sont Mozambique, etc. Alors tout ce que je veux dire, que dans notre expérience juridique, bien qu'on dit qu'on est dans un sens borné, on est dans un sens l'enfant des mouvements et des couches qui sont extraordinaires au cours de 2000 ans. Alors, pour terminer, je veux dire que est-ce que je suis pour l'harmonisation ? Est-ce que je suis confiant qu'on puisse avoir l'harmonisation ? En tant que le traité de Lisbonne, en tant que j'ai vu, et j'étais à Belfast il y a 15 jours, en parlant avec le Recorder of Belfast, le juge responsable pour les mandats d'arrêt européens. Est-ce que ça marche? Oui. Et lui, il en a fait pas mal pour les Espagnols, parce que avant le vendredi saint, l'accord entre les terroristes, c'était que l'État allait en Irlande du Nord et l'IRA en Irlande du Nord allait dans le Pays Basque pour se sauver de la justice. Maintenant, on voit l'inverse. Alors, on voit que le système des mandats d'arrêt, le système des droits de l'homme, le système qui va avoir lieu, pour moi, dans le traité de Lisbonne, va créer, pas tout de suite, une harmonisation, mais une tendance de convergence, une tendance de haut en bas. Je ne dis pas en bas avec le juge de Belfast, mais je veux dire que le fait qu'ils ont des problèmes pour les juges à résoudre dans ces lois et l'Union de l'Europe, et de haut en bas et de bas en haut, on va arriver à une harmonisation. Alors, je veux terminer avec quelque chose qui m'est très cher, c'est un livre qui s'appelle « Guerre et paix ». Parce qu'il ne faut pas jamais oublier que notre système de l'Union de l'Europe est né d'une guerre. Il y a, en 1947, Churchill, dans le fameux discours à Zurich, qui disait « Il faut avoir un United States of Europe ». Lui-même, bien sûr, côté de sa mère, américain, côté de son père, britannique. Alors, je vous laisse ce que j'ai pris de Guerre et Paix. Il y avait un vieux monsieur moscovite expérimenté dans la vie qui disait à Pierre Bezoukhov, l'héros, il disait « Autant que les gens de mauvaise foi s'organisent pour faire du mal, les gens de bonne foi doivent se lier pour les opposer. » Et voilà où on est avec les articles cités par mes deux confrères. C'est voilà où on est pour notre avenir. Il faut qu'on travaille ensemble parce qu'il faut opposer à ces gens qui se lient pour faire des choses qui sont mauvaises contre nos populations communes.